Le jeudi 9 décembre, FM+ et l'association Maya, en partenariat avec le cinéma Le Diagonal, ont commenté la projection de Lingui, Les liens sacrés, le dernier film de réalisateur tchadien Mahamat Saleh Haroun. C'est Marie-Claude Siakezak, présidente de l'association Maya et co-animatrice de l'émission L'Afrique dans tous ses états, qui anime le débat.
Le petit regret que j'ai, c'est que je n'ai pas les compatriotes africains, parce que chacun devait se retrouver quelque part dans cette rue, dans cette vie, ce marché, les rues, on marche, on se bouscule, on monte sur des motos, et ben voilà. Et moi, j'ai passé un très très bon moment dans ce film-là, comme je disais. Et on retrouve plusieurs réalités, et c'est aussi ça l'Afrique. C'est-à-dire la religion côtoie le traditionnel. On ne peut pas les dissocier totalement. Et on se retrouve dans la modernité qui vient aussi flirter avec des valeurs traditionnelles. Et c'est ça la vie d'aujourd'hui, en fait. C'est ça la vie d'aujourd'hui où on ne peut pas avoir des limites. C'est-à-dire ou alors des couloirs bien précis. Tout est entrelacé, tout est... Tout flirte ensemble, quoi. Et aujourd'hui, chercher à mettre quelque chose de particulier, chercher à dessiner des couloirs bien particuliers, je crois que ça va être difficile à la vie aujourd'hui.
Alors, merci Madeleine, parce que c'est un écho, mais moi, je ne suis pas née sur le continent africain.
Est-ce qu'il y a une question là, par rapport à ce qu'on vient de dire, par rapport à l'ambiance générale?
Comment ils ont pu aborder tous ces thèmes là? Je trouve ça fantastique.
Ils ont pu aborder tous ces thèmes quand même très délicats.
Oui.
Sans être censurés. Il n'y a pas eu de soucis à ce niveau-là. Et ce film-là, est-ce qu'il va pouvoir être présenté au Tchad ou à d'autres pays
africains? Oh, je pense, oui. Oui, je pense. Je pense que c'est son 9e film.
Il n'y a pas de censure.
C'est son 9e long métrage et il a, c'est la première fois qu'il aborde le problème vraiment spécifiquement de la femme, mais il a beaucoup parlé de son pays, de l'État. En fait, c'est un pays quand même qui depuis des décennies, depuis les indépendances, est en guerre pratiquement, et je crois qu'il a fait quand même plus d'un film là-dessus, et après, jusqu'à preuve du contraire, il n'a pas été censuré, donc ça c'est le bon côté de la chose, quoi. Hein?
Moi, je voulais dire aussi que c'est très courageux d'aborder la question de l'avortement, quand même, qui est criminalisé dans la majorité des pays africains, et la question des violences faites aux femmes, parce qu'à travers la situation d'avortement où justement la mère et les amis mettent en place des stratégies de contournement pour y arriver, parce qu'on sait que l'avortement dit pas sécurisé ou clandestin est quelque chose de très courant en Afrique. Et dans, pas qu'en Afrique, dans tous les pays où la loi criminalise l'avortement. Donc en gros, on appelle ça avortement clandestin, comme c'était en France avant 1975. Donc là, en Afrique, il y a trois pays qui ont... Le premier, c'est la Tunisie, hein, parce que tu parlais d'islam. Le premier, c'est la Tunisie, 73. Et ensuite, il y a eu le Mozambique et après, les lois post-apartheid, l'Afrique du Sud. Et tout récemment, c'est le Bénin. Et bravo au Bénin, c'est au mois de septembre, c'est une mobilisation de la société civile qui a travaillé pendant des années et qui a fait du plaidoyer pour arriver à se faire entendre et prendre en compte la demande pour une loi qui sécurise l'avortement dans d'autres pays comme le Burkina Faso. Et tous les débats autour de l'avortement sont extrêmement, extrêmement violents avec tous les courants Moi, j'ai envie de dire pas que religieux, politico-religieux, ça fait toujours un tollé. Hein. Il y a 2 ans, je crois que c'était l'Ouganda, au Burkina aussi, c'était il y a 2-3 ans, un petit peu avant le confinement. Et la question de l'avortement, donc elle soulève 2 problèmes. Le premier, c'est le tabou, et le second, c'est la criminalisation. Et j'ai envie de dire toute cette hypocrisie de tous les pays, de tous les gouvernements qui savent pertinemment qu'il y a des avortements clandestins, mais qui laisse faire. Et avec la question de l'avortement, il y a eu la question de l'excision. Moi, j'ai adoré l'excision pour de faux. Ça existe.
Je ne connaissais pas, mais franchement,
L'excision pour de faux, et puis aborder la question des violences, notamment des violences sexuelles. Et dans certains pays, c'est pas du tout reconnu en tant que crime, comme par exemple, au Burkina, c'est reconnu comme crime, le viol, mais dans beaucoup de pays. Et je terminerai. En Afrique, il y a un protocole qui s'appelle protocole de Maputo, et c'est un protocole qui complète la, concerne les droits des femmes, et qui complète la charte des droits de l'homme, africain des droits de l'homme. Et ce protocole a un certain nombre d'articles, et tous les articles concernent l'éducation, la santé, et notamment la santé de la reproduction, avec un accès aux services pour la reproduction. Malheureusement, ce protocole n'est pas ratifié par tous les pays, donc ce qui leur impose des engagements, notamment des engagements pour insérer, enchâsser dans les constitutions des aspects juridiques pour cet accès au droit, et en même temps mettre en place sur le terrain des dispositifs qui permettent d'avoir aux femmes l'accès aux soins, à la santé et notamment à un appartement sécurisé. Voilà, je parle.
Oui. Pendant que certains États aux États-Unis votent des lois pour régresser.
J'y pensais.
C'est incroyable.
Et là, même après un viol, on n'a pas le droit. On doit porter cette grossesse-là.
Voilà, et on voit aussi le viol des jeunes, des mineurs, puisqu'à un moment donné, dans le lycée, il y a la directrice qui dit, mais un tel aussi a été exclu, donc visiblement, c'est... Mais, ça a l'air assez banal.
Oui, tout à fait. Et alors, ce qui est quand même extraordinaire, c'est qu'on rejoint les préoccupations actuelles, qui est aussi quand même, bon, on informe sur les abus sexuels, etc., et que quand même, cette petite, il a fallu... Il faut qu'elle arrive, bon, qu'elle arrive jusqu'au bout de cet avortement compliqué pour pouvoir enfin dénoncer l'auteur d'un viol. C'est-à-dire que non seulement elle a une grossesse, et moi pendant très longtemps je pensais qu'elle avait une grossesse parce que c'est vrai que voilà, elle avait un amoureux, et qu'en fait c'était quand même le fruit d'un viol, donc c'est quand même assez terrible. Et on rejoint les problématiques quand même, et la difficulté de parler aussi ici, de dénoncer. Par peur, par crainte, pour ne pas froisser, pour ne pas... Enfin, là, c'était le voisin, donc c'était...
Alors, c'est peut-être pour ça qu'elle en voulait à sa mère, au départ. Oui, l'adolescente, oui. Aussi, le comportement d'adolescente, oui. Qui est comme toutes les adolescentes du monde entier, finalement, hein, qui rejette la mère, qui veut pas dire ce qui lui arrive. Mais peut-être qu'elle en voulait à la mère, en rendant peut-être responsable de sa mère d'avoir été violée par le voisin, je ne sais pas.
C'était quand même extraordinaire, enfin, au plan un peu thérapeutique, psychanalytique, c'est extraordinaire. On retrouve les mêmes problématiques, c'est-à-dire cette petite qui ne veut pas vivre la vie de sa mère. Quelque part, à la fois, comme par hasard, il y a une répétition de l'histoire maternelle, et en même temps, ce refus, parce qu'elle voit bien que sa mère est exclue, etc., etc., toutes les conséquences. Bon, et après, à un moment, la différence aussi est fondamentale. Quand elle se retrouve vraiment après cette espèce de rejet de mal-être et de malaise, etc., et d'interdit, et que sa mère finit par lui dire qu'elle était très amoureuse du père, donc je pense qu'à un moment, ça peut être éclairé cette petite aussi pour dire, mais en fait, moi, c'est pas du tout mon amoureux, et peut-être que ça... Voilà, et puis ce qui est extraordinaire quand même, c'est que le fait pour la mère... peu à peu, de rentrer dans cette demande d'avortement de sa fille, sans savoir le fameux mot, elle commence chez elle, ça déclenche aussi cette espèce de faim quand elle se met à danser, à chanter.
Elle se libère. Elle se libère
mais comme une espèce de libération de tous les poids.
Elle n'a pas pu faire elle pour elle, elle le fait pour sa fille.
Voilà, et c'est quand même ça, c'était assez étonnant. Alors, chapeau pour le cinéaste, effectivement, d'avoir en si peu de temps sur un film, sur un simple film, d'avoir déjà abordé tous ces thèmes-là d'une façon finalement relativement légère. Alors la scène que j'ai adorée, c'est la scène avec les griottes, le père qui jette l'argent comme ça, bon, les cérémonies traditionnelles, en sachant que le père, ben, il est abusé puisque sa fille ne sera pas vraiment excisée. J'ai trouvé ça extraordinaire. Cette espèce de complicité entre toutes les femmes et puis cet homme qui généreusement et puis de façon très... jeter son argent, pas par les fenêtres, mais dans les mains des griottes, quoi.
Oui, c'est ça. Moi, je voulais relever aussi le fait que, par ignorance, ou alors ce qu'on pense que la femme, dans la société traditionnelle musulmane, n'a qu'un rôle secondaire. Je crois, ici, d'une façon subtile, on peut voir que la femme, elle est à la base. Parce que c'est la femme qui monte le coup et dit on va jouer le jeu, on va les arnaquer en quelque sorte, parce que on peut dire si les femmes décidaient d'arrêter l'incision, ça pouvait s'arrêter, parce que c'est elles qui ont le secret. Et là, les hommes disent, ben oui, je veux que ma fille, mais c'est les femmes. Jusqu'ici, ce ne sont pas les hommes qui pratiquent cette opération, ce sont des femmes qui le font, en fin de compte. Et d'un autre côté, on voit deux femmes qui se battent avec un dynamisme extraordinaire, où est la place de l'homme, en fait.
Oui, tout à fait.
On pourrait se poser la question, la place de l'homme, elle est où? L'imam, il vient donner les ordres, il faut là-bas, il faut là-bas. Mais on s'en fout, la vie continue, elle se bat, elle fait son petit commerce, elle vit, elle entretient sa fille, elle va à l'école. Où est la place du papa? Mais en fait, il est où? Donc, moi, ça, j'ai trouvé ça magnifique.
Oui, en même temps, c'est aussi une réalité, c'est-à-dire quelque part, on a cette vision de la femme africaine soumise, et souvent c'est vrai, mais en même temps, elles ont cette force de, quand elles sont ensemble, vraiment, au Burkina Faso, il y a une expression qui dit « on est ensemble », ça veut tout dire, ça veut dire « rien ne peut arriver parce qu'on est avec toi, parce qu'on va traverser avec toi l'épreuve », lingui, quoi, les liens. Et d'ailleurs, dans l'article du Monde, en fait, celui qui a fait le film a même eu la hardiesse de penser que ce lingui, il est aussi destiné au monde entier, c'est-à-dire qu'il dépasse largement le cadre du Tchad et que c'est aussi l'union. Et je dois dire que quand on est en train de parler, Madeleine, Latifa, Martine, moi, on est aussi unis par ce lien avec ces femmes-là. Il y a quelque chose du féminin qui traverse. Enfin, il me semble, qui traverse.
Mais c'est vrai que ce film est extraordinaire. Ça mérite beaucoup de félicitations.
On va applaudir à la fin encore. La dernière image est très très belle aussi quand on voit cette belle jeune fille retourner dans son lycée, c'est-à-dire reprendre le cours de sa vie. Parce que sa vie, c'était ses études. C'est là aussi, d'ailleurs, où elle avait ses copains. Donc, il y en avait qui avaient de l'argent, qui avaient une piscine, etc. Enfin, je veux dire, il y a quand même quelque chose. Et la force, et ce que j'ai trouvé extraordinaire entre cette mère et cette fille, c'est que peu à peu, la mère, sans savoir le fin mot de l'histoire, se met vraiment à comprendre et à vraiment à vivre le refus de la grossesse de sa fille, son désir d'avortement, et sans avoir encore compris le pourquoi du comment. C'est après qu'elle le comprend, d'ailleurs, elle s'en occupe à ce moment-là.
Elle a continué avec sa grossesse.
Oui.
Elle est exclue de la société.
Tout à fait, c'est bien pour ça.
La mère elle-même qui a vécu ça, donc elle est obligée d'accompagner sa fille pour qu'elle puisse reprendre le cours de la vie normale et ne pas être exclue de la société.
Il y a une complicité quand même entre elles deux, on sent un moment très forte.
Oui. Quand elle a accepté, au début on a vu sous la moustiquaire, la fille de la rejetait, mais quand elle a accepté de dire qu'effectivement elle est en grossesse, l'autre met du temps pour comprendre, mesurer l'impact social, et après elle suit sur son enfant. Ça dit que...
Le lingui, c'est quelle langue?
Je sais pas, le tchad, qu'est-ce qu'il parle comme langue, je sais pas.
Non, c'est l'arabe choix.
Arabe.
L'arabe choix. C'est un arabe mélangé à du pur. C'est comme au Soudan, c'est dans l'arabe choix.
D'accord.
Mais par exemple, au Niger, c'est le djerman. Mais le Soudan, l'Éthiopie un peu, c'est dans l'arabe choix. C'est du pur mélangé à de l'arabe.
Je pense qu'il est important quand même de rappeler que c'est une situation qui n'est pas spécifique à l'Afrique, parce que, notamment par exemple la question de l'excision, le continent africain a été stigmatisé pendant des décennies en disant... C'est là où il y a l'excision. On peut quand même citer le Rwanda, le Togo, où il n'y a pas d'excision. En Afrique du Nord, il n'y en a pas. Et les études qui ont montré que ça existe au Kurdistan, en Irak et en Iran, ça date de 2013. Donc là, c'est important aussi de le rappeler par rapport à la question de l'avortement. Tous les pays où il n'y a pas de loi, où c'est interdit, c'est criminalisé. Les situations de mariage sont les mêmes. C'est partout. Donc, c'est pas qu'une question, parce que même on parlait d'islam, je sais qu'il y a un verset qui dit il y a une âme qu'à 120 jours. Donc, avant, on peut. Hein? Donc, avant, on peut. Donc, la question de la religion, c'est un prétexte, qu'elle soit catholique ou musulmane. Ici, voilà. Tous les intégristes se mettent d'accord en général sur le dos des femmes, hein, pour aller vite. Et la question de l'excision, je sais par exemple à Gawa, au Burkina Faso, C'est les femmes qui ont aidé à jeter les couteaux et à intégrer les exciseurs, parce que certaines vivent de ça, pour avoir des activités de génératrices de revenus. C'est une association de son oncle que vous connaissez bien. Et puis après, à la question du viol, j'ai envie de dire le viol, c'est universel. Et puis si la femme, pour moi, si la mère, elle ne veut pas que sa fille vive la même situation qu'elle, c'est que ben, je pense que nous, toutes les femmes, on est conscientes des pressions qu'on subit, voilà, des inégalités, etc. Et que ce soit, je ne sais plus comment elle s'appelait, Amina, que ce soit Caroline en Uruguay ou au Brésil, elle aurait fait la même chose. Parce que l'avortement, c'est interdit.
D'accord.
J'étais très touché par ce film qui est vraiment magnifique et qu'on a déjà dit, qui touche contre ces problèmes qu'on a aussi en Occident, parce que finalement, on a parlé de l'Afrique, mais concernant l'avortement, il y a même des pays en Europe aujourd'hui qui sont en train de le remettre en question. C'est vraiment une lutte avec le temps. Et concernant l'excision, moi j'ai vécu en Égypte, et en Égypte, c'est, dans les années 90, c'était encore vraiment énormément pratiqué, et aussi par les populations chrétiennes, les coptes, excisaient aussi les petites filles. Donc c'est pas seulement la religion musulmane, c'est islamique, hein, l'excision en Afrique. Et il y en a eu jusque en Asie, en Thaïlande, il y a des femmes qui sont excisées. J'ai connu des jeunes femmes, enfin, ma génération, j'ai 60 ans, mais qui avaient été excisées en Thaïlande. Oui, merci pour nous avoir présenté ce film. Alors, il y a l'excision, l'avortement, et à la fin, le viol, c'est intéressant comment il l'amène, parce que c'est vrai qu'on pense au début, bon, voilà, une fille qui a eu un amoureux, qui culpabilise, et finalement, voilà, encore un thème qui est vraiment d'actualité. Merci.
Et il faut dire qu'après le combat de Madame Veil, quand même, qui a été assez héroïque, et c'était un combat de femme également, dans les années, justement, le film qui vient de sortir aussi, ça doit être, il est tiré d'un film dont je vous parlais tout à l'heure, qui est sorti il y a 15 jours, qui traite aussi... Oui, Dany, c'est un livre d'Annie Arnaud, qui a quand même écrit énormément sur les femmes. Et c'est vrai que dans les années 60, jusqu'à 75, que la loi passe, il y a quand même, on a vu à un moment la descente de police dans cette clinique, etc. Je veux dire, ça a existé chez nous aussi, hein. C'est pas si vieux que ça, hein. C'est pas, dans l'histoire de l'humanité, c'est rien du tout. Et c'est vrai qu'on retrouve les mêmes problématiques et qu'il y a la religion, effectivement, qui souvent vient renforcer. Mais il y a quand même sûrement des mécanismes autres derrière.
Société patriarcale, matrice.
Tout à fait.
Je posais la question de si le papa aurait été là, est-ce qu'elle aurait pu avorter ?
Ah. Si le père avait été là, est-ce qu'elle aurait pu avorter ?
J'imagine que non.
Oui, je crois qu'elle a déjà donné une réponse. Comme je disais tantôt, les femmes sont pour beaucoup. On voit même l'agression à la fin, ça passe comme ça, mais quel courage. Moi, je me voyais en elle en train de...
ça t'a parlé.
Je cherche ce monsieur et de l'attraper. Donc, ça passe un peu... On voit le dynamisme des femmes du début jusqu'à la fin. C'est comme je disais, même si le papa avait été là, on n'aurait pas trop parlé de lui. Parce que là, on a touché, que ce soit l'incision, le viol, l'exclusion, c'est la femme.
on veut inciser l'enfant, le mari impose, il impose dans la maison entre quatre murs, on n'est pas au courant. Mais c'est la femme qui veut protéger sa fille, parce que les deux veulent protéger la fille. Et qui sauve les deux filles, c'est encore les femmes. L'homme qu'on voit, le violeur, et monsieur l'imam, deux qui sont là pour mettre une certaine pression. C'est-à-dire, on peut dire les hommes sont là pour causer des problèmes.
Les hommes, désolé. Alors je pense un petit peu, quand même, il faut dire Madeleine, elle est du Cameroun, hein. Moi je suis quand même plutôt, enfin née en France en tout cas, et je pense, oui, et je pense qu'effectivement, que peut-être on peut penser que dans cette histoire-là, l'homme, le père, aurait été exclu de la discussion, avec cet interdit justement, avec l'interdit aussi, avec le fait que ce soit le voisin violeur, etc. Je pense que le père aurait été mis hors du coup. Et il me semble d'ailleurs que dans les années 60, enfin, quand justement il y avait une pression qui commençait à venir avec ce désir d'autonomie des femmes et qu'il y avait une pression pour les avortements, il me semble quand même que c'était toujours une histoire de femmes. Que les hommes n'étaient jamais au courant. Et il y avait très peu sur, même d'hommes, de médecins. C'était souvent des sages-femmes, des accoucheuses, des faiseuses d'anges, etc., etc. Voilà, il me semblait, donc je rejoins Madeleine là-dessus.
Pour moi, je peux parfaitement superposer le film dans un autre pays. Parce que ce sont des problématiques qui concernent les femmes, et j'ai envie de dire que c'est universel, c'est pas uniquement. Par contre, par rapport à ce que vous dites, il me semble que le réalisateur a voulu montrer que tout se fait à côté de la mosquée. Cette mosquée, c'est une vitrine, il y a du contrôle social, puisqu'on voit là, et en fait, c'est complètement hypocrite et que ça ne sert à rien. Moi, je l'ai interprété comme ça. Quand on dit par rapport au père, il y a quand même 8 millions, je crois, 8 à 9 millions d'avortements clandestins dans le monde, il y a plus que de 80% qui se passent en Afrique. Parce que justement, il y a cette difficulté d'accès aux soins, ce manque de droits et toutes ces formes de violence qui existent partout mais qui sont encore très présentes et pour lesquelles les gouvernements n'ont pas encore mis de dispositif, ça avance, pour justement protéger les femmes. Donc Maria, elle aurait pu s'appeler Caroline ou Karima ou j'en sais rien. Pour moi, c'est exactement la même chose. Donc la religion, elle est là comme, comment dirais-je, comme un frein, mais la situation des femmes, elle est partout. Et puis c'est les femmes qui ont un utérus, et c'est les femmes qui sont enceintes, et c'est les femmes qui avortent parce que c'est la solution qu'elles choisissent, elles. Pourquoi elles avortent? Parce que pour elles, c'est une solution, c'est pas un problème. C'est la solution. Voilà.
C'est tout simplement magnifique. Et ce qu'on a vu ce soir, et je crois que on pourrait le voir et le revoir.
Oui.
C'est-à-dire, comme il disait tout à l'heure, c'est un film tchadien, c'est un film nord-camerounais, c'est un film burkinabé. C'est-à-dire, on n'a même pas besoin d'écrire « c'est le Tchad » et tout. Et voilà. Et je me dis, c'est la société d'aujourd'hui. Voilà, une musulmane, si on peut dire, qui prend la cigarette, elle fume. On voit les jeunes en maillot de bain. Après à la piscine.
Il y a peut-être même de l'alcool, on ne sait pas, c'est pas
c'est dit. Ça. Non, elle a du dit qu'il y a le Fanta Coca, il y a aussi du champagne.
Du champagne.
Donc, on voit déjà le genre de société et voilà, une femme qui prend la machette et tabasse un homme, ça c'est aussi un signe fort.
Ça c'est génial.
Ben oui. Elle n'a pas parlé, elle n'a pas dit mot, non. On a vu le monsieur reculer, mais elle a approché. Et elle a affronté avec sa petite taille un grand, il aurait pu arracher...
L'arme de la femme africaine.
Voilà. Et ça, c'est, pour moi, c'est un symbole fort.
Très fort.
Vraiment, c'est un symbole très fort. Une femme qui défend, qui protège et qui combat.
Et qui punit, qui sanctionne.
Et qui punit et sanctionne. Donc,
Oui, c'est vrai que c'est un très, très beau... Très belle séquence aussi. Ça fait du bien. Surtout qu'on voit que le monsieur se relève, donc ça va. Bertrand, tu voulais parler?
J'avais juste. Là, je suis désolé, je n'ai pas le nom du film, mais j'ai vu un film sur la même question en Europe de l'Est, des étudiantes qui s'entraident entre elles. Et la même chose après. Je ne sais plus les titres. Et aussi, j'ai rencontré il y a quelques années une personne que j'avais photographiée, une Camerounaise, qui avait fondé, je pense, déjà au Cameroun, avant de venir à Paris, une association qui s'appelait Naître en Rose. Et elle était venue faire la promotion de son association lors d'un concert gospel, dont les bénéfices leur étaient donnés. Et je me rappelle d'un exemple qui m'a marqué, où elle racontait qu'elle aidait donc les femmes à leur grossesse. Et elle racontait, entre autres, qu'il lui arrivait d'avoir des femmes qui lui disaient qu'elles ne savaient pas comment elles allaient mettre un enfant au monde. Et sa réponse m'avait beaucoup plu, qui était de dire « comme il est arrivé ». Voilà. Et donc cette association, je pense qu'elle existe encore sur Paris, Naître en Rose.
Naître en Rose. Joli titre, en plus, joli nom. En tout cas, c'est vrai que ça a été un grand moment. Et puis, vraiment, j'ai eu plaisir. J'avais l'impression que je passais, et comme disait Ibrahima, on se croyait à Bobo, Bamako. Voilà, on était à N'Djamena, mais c'était la même chose. Et tout y était avec une sobriété, une précision vraiment extraordinaire. Oui, monsieur Ibrahima. Docteur Traoré.
Le
réalisateur, donc ce que je disais au début, c'est que ça fait 40 ans qu'il est en France, mais il parle essentiellement de son pays, mais vraiment des sujets d'actualité, et c'est quelqu'un quand même qui a une vision un peu, qui présente toujours, là par exemple, c'est très moderne ce qu'il nous présente, c'est-à-dire c'est vraiment l'accès, enfin, le modernisme maintenant dans les villes, avec effectivement la culture originelle, voilà, la religion, le contexte, etc. Et alors il vit en France depuis, ça fait 40 ans. Il a 61 ans, je crois, et voilà, mais il présente que des films. Et toujours avec cette espèce de portée, ce qui était dit dans l'article du Monde qui m'a beaucoup plu, une petite phrase que j'avais relevée, c'est que cette notion que l'Afrique noire, alors de témoigner l'Afrique noire, ce qui nous fait dire que c'était N'Djamena, mais ça aurait pu être ailleurs. Merci. Effectivement, il traite vraiment de l'Afrique noire, c'est dit comme ça, et en même temps, cette Afrique noire qui fait partie du monde. Il est mondialiste, quoi. Hein. Donc, vraiment, c'est ça qui est intéressant. Voilà. C'est un Tchadien de naissance. Et il a dû venir à une vingtaine d'années pour faire des études universitaires. Il n'est pas reparti, vu l'état du pays, en fait, tout ça. Il a fait beaucoup de films, là, où il a parlé de tout ça. Et c'est vraiment, c'est une réussite, parce que c'est son premier film, vraiment, où il parle vraiment spécifiquement de la femme, du féminin. Et c'est filmé quand même avec beaucoup de... L'autre film qui traite aussi de l'avortement dans les années 60, c'est une femme qui l'a fait. Tandis que là, c'est un homme, et un homme quand même qui a fait ça avec une finesse et un raffinement. Vraiment, enfin, pour moi, femme, ça me touche énormément, quoi. Voilà. Oui, monsieur ?
Puisqu'on parle dans les faits de Mahamat Saleh Haroun, c'est vrai que c'est son premier film sur les femmes. Et il avait fait un Bouna sur notre père,
tout à fait.
Sur un peu les problèmes d'émigration d'un père qui n'ose même pas le dire à sa famille et qui disparaît du jour au lendemain, et la famille qui est complètement désorientée. Il a fait Darat, la saison sèche, vengeance, ouais. Après les fameuses guerres autour d'Issenadré. Et il a fait Gris-Gris, il a fait, alors totalement différent, hein, tous ces films sont très très différents.
Oui,
il a fait L'homme qui crie, je crois, si je ne trompe pas du titre, c'est ça. Sur le problème de la guerre civile interne, où on veut que son fils parte à... Il ne peut pas payer l'impôt, et c'est son fils qui est obligé de partir à la guerre. Et il a fait un documentaire sur Issenadré aussi, juste avant le procès d'ailleurs. Donc c'est vrai qu'il est très multiple. Hein.
Il est très...
Moi, ce film, je ne m'attendais pas du tout à ça, connaissant les autres. On en a présenté plusieurs au Festival chrétien du cinéma de Montpellier. On a présenté la Arat, on a présenté à Bouna, par exemple. Voilà.
D'accord, merci beaucoup, monsieur. Vous êtes calé dans la filmographie de...
Et j'en oublie, peut-être.
Oui, non, mais il y a en tout cas, des longs-métrages, vous n'en avez pas beaucoup oublié, parce que je vous dis, c'est le 9e. Après, il a fait beaucoup, justement, comme peut-être le film sur Issen, après tout ça, mais des longs-métrages, c'est uniquement le 9e. Voilà. Merci d'avoir alimenté le débat. Merci Bertrand de nous avoir filmé, photographié. Et merci à tous, et puis bonne nuit, hein, et puis bon rêve. Voilà. Puisque tout se termine bien en plus, donc.
Pour cette émission « L'Afrique dans tous ses états », nous remercions Arthur qui a assuré l'enregistrement et le montage des débats qui se sont déroulés au cinéma montpelliérain Le Diagonal le jeudi 9 décembre 2021 à la suite de la diffusion du film du réalisateur Mahamat Saleh Haroun, « Lingui, les liens sacrés ».